Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Tout est parti de révélations diffusées sur les réseaux sociaux par un homme d'affaires égyptien exilé en Espagne. Hier soir à Suez, des centaines de manifestants ont fait face aux forces de l'ordre et demandé la démission du président Sisi, accusé de corruption. Portrait du lanceur d'alerte dans cette édition avec Martin Roux au Caire. Le président iranien proposera un plan pour plus de sécurité dans le Golfe lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, mardi à New York. Commentaire de la sociologue Azadeh Kian. En France, à deux jours de l'examen par les députés de l'extension de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, l'Académie nationale de médecine émet de sérieuses réserves, précision de Diane Berger. Nous rendrons hommage à l'illustre chanteur, musicien, griot sénégalais Samba Diabaré Samb qui vient de s'éteindre. William Delesseux sera en ligne de Dakar. Puis en fin de journal, l'Afghanistan et Cuba au sommaire de la face cachée du globe, signé Nabila Hamel. L'homme d'affaires égyptien Mohamed Ali, en exil en Espagne, appelle les opposants au régime à participer à une marche du million vendredi prochain sur toutes les grandes places du pays. Lui qui se dit surpris des mouvements de contestation de ces dernières 48 heures en Égypte, des affrontements hier soir à Suez entre effectifs de la police anti-émeute appuyés par des blindés et des centaines de citoyens qui ont de nouveau bravé l'interdiction de manifester et l'état d'urgence. Qui est cet homme à l'origine de ce sursaut citoyen ? Son portrait avec au Caire Martin Roux.
Voix rauque et regard sombre, Mohamed Ali, acteur de série B égyptienne, tient peut-être là son plus grand rôle. Dans la série de vidéos qu'il publie depuis deux semaines, il fanfaronne en s'adressant directement au président Al-Sisi. Mais outre sa carrière d'acteur, l'homme d'aujourd'hui 43 ans est surtout devenu riche grâce à son entreprise du bâtiment, Amlak. C'est avec elle qu'il collabore pendant 15 ans avec des entreprises de l'armée. Depuis son exil en Espagne, il dit avoir été floué et décide donc de révéler au public égyptien les chantiers réalisés par son entreprise au profit de hauts gradés et du président Al-Sisi. 110 millions d'euros pour la construction d'un hôtel par une entreprise de l'armée dans la banlieue du Caire ou encore 12 100 000 euros pour une résidence d'été du président près d'Alexandrie. Et plus largement, il dénonce ces entreprises de l'armée qui collaborent avec le secteur privé sans appel d'offres au profit d'un cercle restreint, un flot d'accusations sans preuve, avec pour seul fondement le témoignage de cet entrepreneur qui a appartenu à l'élite qu'il dénonce aujourd'hui. Mais sa voix porte surtout car il pointe le double discours du président Al-Sisi quand les Égyptiens sont appelés eux à se serrer la ceinture, appauvris par des mesures d'austérité sans précédent. Lanceur d'alerte pour les uns, marionnette pour d'autres. Le pouvoir l'accuse d'agir pour le compte des frères musulmans, de la Turquie ou du Qatar. Depuis ce vendredi de la colère, Mohamed Ali semble lui se voir dans un nouveau rôle. S'imagine-t-il leader ? Dans ses dernières vidéos, il livre sa vision pour l'avenir de l'Égypte et appelle vendredi à une marche du million.
L'organisation État islamique revendique l'attaque à la bombe dans un bus de Kerbala qui hier a fait 12 morts dans la ville sainte chiite d'Irak. Le président iranien présentera à l'Assemblée générale des Nations unies qui s'ouvre mardi à New York un plan visant à assurer la sécurité dans le Golfe en coopération avec d'autres pays de la région. Hassan Rouhani a lancé une énième mise en garde contre toute riposte qui viserait la République islamique, Téhéran, dans le viseur de Riyad, de son allié partenaire américain après les frappes sur des sites pétroliers saoudiens le 14 septembre dernier. Ce plan d'Hassan Rouhani a-t-il une chance d'être accepté par les pays de la région ? Nabila Hamel a posé la question à la sociologue Azadeh Kian.
Après avoir montré leur force et leur détermination, effectivement, les Iraniens sont en train de montrer qu'ils sont aussi capables de coopérer avec d'autres États du Golfe Persique afin d'assurer la sécurité, en même temps qu'ils sont en train aussi de préparer une manœuvre militaire avec la Russie et la Chine dans le Golfe Persique et la mer d'Oman. Donc, ce qu'on constate effectivement, c'est que les Iraniens ont, me semble-t-il, réussi à faire en sorte que les alliances entre, par exemple, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ne soient plus aussi importantes qu'avant. C'est-à-dire qu'un certain nombre de pays de la région seraient visiblement d'accord, en particulier donc le Koweït, l'Oman, le Qatar par exemple, avec cette proposition de l'Iran de créer une coopération avec les pays de la région afin d'assurer la sécurité de Détroit d'Ormuz et de Golfe Persique en général. Les contacts existent déjà, il y a eu des va-et-vient entre l'Iran, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, l'Oman et le Koweït. Donc effectivement, on voit qu'il y a eu beaucoup de pourparlers déjà.
La sociologue Azadeh Kian avec Nabila Hamel. Conseil d'administration Vital en fin d'après-midi au siège londonien de Thomas Cook, le voyagiste qui doit trouver avant la fin de la journée 227 millions d'euros afin d'échapper à la faillite et de devoir rapatrier dans l'urgence 600 000 touristes à travers le monde. L'appel du PDG de la compagnie aérienne française XL Airways en cessation de paiement, Laurent Magnin, attend de son homologue d'Air France qu'il propose à ses actionnaires de sauver XL Airways qui, en l'état, sera placé demain en redressement judiciaire. La loi de bioéthique est présentée dans 2 jours à l'Assemblée nationale et parmi ses mesures phares, la procréation médicalement assistée ouverte aux femmes seules et aux couples homosexuels. Dans les rangs de l'opposition, peu de députés s'opposent à la mesure. En revanche, une voix s'est élevée pour exprimer des réserves et non des moindres. Bonjour Diane Berger.
Bonjour.
Diane, cette voix, c'est celle de l'Académie nationale de médecine.
En effet, selon elle, concevoir délibérément un enfant privé de père, ce ne serait pas sans risque. Cette position a été rendue publique hier soir par l'Académie après un vote mardi. 69 voix pour, 11 contre et 5 abstentions. L'ancien ministre de la Santé, Jean-François Mattei, est le rapporteur du texte.
Le père et la mère n'ont pas le même rôle dans l'éducation d'un enfant. Est-ce qu'on peut accepter qu'un enfant soit délibérément privé de père ? Nous, nous disons, attention, il y a des risques pour son épanouissement et pour son futur. Les psychiatres, dans leur très grande majorité, nous disent « Nous ne sommes pas toujours capables de dire ce qu'apporte un père, mais en revanche, on est tout à fait capable de vous dire ce que son absence provoque. »
Mais pour Anne-Sophie Dupéret, cette absence du père ne provoque pas justement de troubles particuliers. Elle est coprésidente de l'association Maman Solo et mère d'une fille née via la procréation médicalement assistée. Au micro de France Info, elle rejette les réserves de l'Académie de médecine.
Il me semble que cette conception sexuée du partage des rôles, ça relève d'un autre temps. D'ailleurs, même dans les couples hétérosexuels, on ne dit plus ça aujourd'hui. Oui, il y a besoin d'un autre, mais c'est pas forcément un père. Ça peut être une autre mère, ça peut être un autre parent, une grand-mère, un instituteur. Mmh. Bref, faut que ce soit un autre. Nos familles, elles existent déjà. Et certains des enfants qui sont issus de ces familles non traditionnelles sont devenus des adultes aujourd'hui. Et eux, ils le disent qu'ils vont bien.
D'autres organismes professionnels, comme le Conseil national de l'Ordre des médecins et le Conseil national des gynécologues de France, se sont montrés, eux, favorables à l'extension de la PMA à toutes les femmes.
Merci à vous, Diane Berger. Le ralame en main du petit jour au crépuscule, Samba Diabaré Samb met à dire que ce luth traditionnel sénégalais a le pouvoir de galvaniser les contemporains en faisant revivre les beautés du continent africain. Le chanteur, le griot, s'en est allé à l'âge de 95 ans. Bonjour William Delesseux.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Dakar, Samba Diabaré Samb, virtuose, maître de la parole et puis chroniqueur social exceptionnel.
Oui, un immense artiste connu et reconnu par de nombreux Sénégalais qui, avec une carrière qui avoisine les 80 ans, il a accompagné plusieurs générations. Samba Diabaré Samb, c'est d'abord un des derniers porteurs de la tradition musicale sénégalaise qui est très lié à l'oralité et même à l'histoire. Il est ce qu'on appelle un de ces musiciens historiens, témoins et narrateurs des épisodes de l'histoire du pays, porteur d'un patrimoine, raison pour laquelle en 2006, l'UNESCO le sacre trésor humain vivant. Un titre partagé avec par exemple Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal indépendant. Indépendance accompagnée par Samba Diabaré Samb dans les années 60. Juste avant la décolonisation, l'homme anime à la radio une émission sur le patrimoine historique du pays, le fait découvrir à beaucoup de Sénégalais, musiciens, historiens, donc musiciens surtout universels. Il a touché tous les milieux sociaux, sans exception. Je vous propose d'écouter le conteur Massamba Gaye, c'est un de ses disciples.
C'est plus qu'un musicien, c'était un stabilisateur social, c'était quelqu'un qui portait les messages extraordinaires, c'était le roi de l'épopée et des musiques épiques de l'Afrique de l'Ouest et du Sénégal particulièrement. Donc Samba Diabaré Samb, pour nous c'est notre Mozart, c'est rien de plus, rien de moins.
William, hommage unanime aujourd'hui.
Oui, Abdoulaye Diop, le ministre de la Culture du Sénégal, salue l'aura morale et spirituelle de Samba Diabaré Samb. Le président du pays, Macky Sall, a salué sur Twitter hier soir le symbole de la dignité et du lien social. Il a été inhumé à Tivaouane, ville au nord de la capitale Dakar. La levée du corps a eu lieu ce samedi après-midi dans la tradition des Tidianes. C'était la confrérie religieuse dont il était issu.
Merci à vous, William Delesseux à Dakar. Quelques notes encore de musique de ce morceau intitulé « Yaya ». Lagia, pour être tout à fait précis, c'est ce morceau de Samba Diabaré Samb. Il est un peu plus de 12h40, vous écoutez le journal de France Culture et c'est l'heure de la face cachée du globe. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour Mathieu. Le Premier ministre maltais a accepté une enquête indépendante sur l'assassinat de la journaliste d'investigation Daphne Caruana Galizia. Un juge à la retraite a été nommé vendredi. Si l'annonce de cette enquête intervient avant l'expiration d'une mise en demeure du Conseil de l'Europe, les parents de la journaliste s'en félicitent, certes, mais demandent des assurances sur l'impartialité des enquêteurs. Daphne Caruana Galizia a été tuée dans un attentat à la voiture piégée en 2017, qualifiée de Wikileaks à elle toute seule, elle avait révélé les côtés les plus sombres de la vie politique maltaise en épargnant ni le Premier ministre Joseph Muscat ni le chef de l'opposition. L'Allemagne a prolongé de 6 mois son embargo sur les ventes d'armes à Riyad. Il avait été imposé après l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en octobre dernier. Pour la chancelière allemande Angela Merkel, il n'y a aucune raison que le gouvernement change de position à ce stade. Cette prolongation de l'embargo a été décidée mercredi en pleine crise liée aux attaques contre des installations pétrolières saoudiennes. Le gouvernement afghan est trop laxiste en matière de lutte contre la corruption et incapable d'en finir avec l'opacité qui entoure la gestion de l'aide américaine. Plus que des griefs, ce sont des critiques virulentes qui ont été émises à 3 reprises ces derniers jours par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Bien plus, Washington a réduit cette semaine son aide à Kaboul. Une attitude inédite qu'analyse pour nous Karim Pagzad, spécialiste de l'Afghanistan.
À plusieurs reprises, ils ont mis en garde le gouvernement afghan sur la corruption qui touche l'administration, le gouvernement et notamment l'administration présidentielle. Mais seulement maintenant, on est dans une situation assez particulière. Les Américains ont suspendu 60 millions de dollars d'aide à l'administration afghane et ont rapatrié 100 millions autres de dollars dans la trésorerie américaine. Donc c'est un signe que les Américains sont extrêmement mécontents de Ashraf Ghani.
En matière de calendrier, l'on est à quelques jours de la présidentielle en Afghanistan et surtout, cette hostilité exprimée à l'égard de Kaboul intervient 2 semaines après la décision de Donald Trump de suspendre les pourparlers avec les talibans. Est-ce qu'il y a un lien ?
Moi, je pense que dans la négociation entre les Américains et les talibans, le gouvernement afghan a joué un jeu qui n'était pas très plaisant pour les Américains. Et même un proche conseiller du président afghan a accusé l'envoyé spécial américain de jouer un jeu personnel. Même si Donald Trump a refusé de signer l'accord de paix entre les États-Unis et les talibans qui a été finalisé, la perspective de la reprise des négociations n'a pas totalement disparu. Or, les Américains essayent de donner aux talibans certains signes qu'en fait, ce n'est pas pour soutenir le gouvernement de Kaboul que le président américain a refusé de signer, parce que les Américains attendent davantage de la part des talibans, notamment en ce qui concerne le cessez-le-feu.
Karim Pagzad, spécialiste de l'Afghanistan. Cap sur Cuba, où une pénurie d'essence affecte le quotidien de ses habitants depuis plusieurs jours. Les autorités promettent un retour à la normale le mois prochain. La crise de devises que connaît le pays le rend incapable d'acheter du pétrole ailleurs qu'au Venezuela. Or, cette rupture d'approvisionnement en carburant est surtout liée aux sanctions américaines qui frappent les navires chargés de pétrole vénézuélien. Et sur l'île, Domitille Piron on se débrouille comme on peut.
4 heures pour faire un plein d'essence. Si les Cubains sont habitués des files d'attente, celles qui se forment actuellement ont rarement été vues ici à La Havane. Les chanceux qui roulent au diesel ne sont pas concernés, mais pour les autres automobilistes à la pompe, la patience est de rigueur et beaucoup s'accrochent à l'espoir que cette situation ne dure pas. Le gouvernement qualifie effectivement cette crise de conjoncturelle, mais les mesures économiques mises en place actuellement rappellent aux Cubains la période spéciale des années 90. Depuis une semaine, donc, l'agriculture s'en remet à la force animale. Des milliers de bœufs remplacent désormais les machines dans les champs de canne à sucre. Les transports publics sont diminués de moitié. Les Cubains parlent déjà de revenir au vélo. Et dans les rues de La Havane, on voit réapparaître des policiers chargés d'arrêter les voitures d'État pour les remplir de passagers. De l'école à l'université et dans les entreprises publiques et administrations, les horaires sont restreints et la climatisation ou parfois toute l'électricité est coupée plusieurs heures dans la journée. Pour l'instant, ce que les Cubains craignent le plus n'est pas arrivé. Il n'y a pas de coupure de courant dans les foyers. Mais le pays tourne au ralenti et cette situation ici est expliquée par l'acharnement, l'intensité et l'agressivité des mesures américaines.
Domitille Piron à La Havane. À dimanche prochain.
Merci à vous, Nabil Hamel. À dimanche prochain, pluie et orage sur toute la moitié est du pays, à l'exception de l'Alsace et de la Savoie. D'ailleurs, il pleut sur Mels, en Suisse, au pied du glacier du Pisol, où serpente une marche funèbre. Car oui, on enterre les glaciers de nos jours. Édition préparée avec François-Charles Domergue, à la technique Clément Daté.